franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence ce matin par la Tchétchénie.
Avec une accusation portée par un journal russe, Novaya Gazeta, un journal indépendant dans lequel travaillait Anna Politkovskaya avant son assassinat. Ce quotidien accuse les autorités tchétchènes d'avoir lancé fin mars une vaste opération de répression contre les homosexuels. Une centaine d'hommes auraient été arrêtés, torturés. Ils seraient détenus dans des prisons secrètes, non loin de la capitale, Grozny. Trois hommes auraient déjà été assassinés. L'article est traduit chez nous par courrier international. Il est relayé depuis plusieurs jours par de nombreuses ONG, même si l'agence russe d'Amnesty International parle d'informations difficiles à vérifier à cause de l'environnement homophobe, dit-elle, qui règne en Tchétchénie. Réaction à l'agence Interfax d'un porte-parole de la présidence tchétchène qui nie évidemment les accusations. Vous ne pouvez pas arrêter ou réprimer des gens qui n'existent pas dans la République. L'homosexualité n'existe pas ici. Si ces personnes existaient, leurs propres parents les auraient déjà envoyés là où ils ne pourraient jamais revenir. Une réaction qui n'est pas une preuve, mais un environnement propice pour le moins.
Ce matin, Hélène, en France, un candidat à la présidentielle concentre les attaques.
C'est Maurice Ulrich qui va être content. Ce matin, dans l'Humanité, il écrit « Politiques et commentateurs ont trouvé un nouvel angle d'attaque, Mélenchon ». On parle bien de Mélenchon. Le pilonnage contre son programme va s'intensifier, prévient-il. Voyons-y la preuve de sa pertinence portée par la force du peuple. Eh bien, il est servi, Maurice Ulrich, ce matin. Le Figaro consacre trois pleines pages à dénoncer ce qu'il appelle à sa une le délirant projet du Chavez français. Tout y passe, du projet à 270 milliards d'euros à l'inévitable sortie de l'euro, en passant par les inspirateurs de ce programme commun dopé aux hormones. Paul-Henri Duhlimberg résume en manchette tout ce qu'il faut savoir sur le candidat de la France insoumise avec son édito Maximilien Ilitch Mélenchon. Maximilien pour Robespierre évidemment, Ilitch pour Lénine. Il est assez navrant de constater qu'un homme au programme aussi grossièrement démagogique puisse saturer autant de sympathie, regrette-t-il. Car que serait une France mélenchonisée, une France ruinée, nous répond-il. Quant à la conception de la liberté du candidat, la grande terreur robespierriste, le goulag sous les tropiques à Cuba, la ruine du Venezuela sous Chavez, interrogez-le, il vous fera la même réponse que Georges Marchais à propos de l'URSS. Un bilan globalement positif, se désole l'éditorialiste qui voit donc dans ses vieilles lunes la marque indélébile du passage de Mélenchon à l'OCI trotskiste.
Mélenchon rhabillé pour l'hiver par le Figaro qui fait même sortir de son silence le président de la République.
Oui, il avait prévu de rester sur son avantage jusqu'au premier tour, mais la percée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon aurait en effet, semble-t-il, décidé François Hollande à changer de pied, nous révèle ce matin Solène de Royer dans la matinale du Monde. Dans un entretien accordé à Franz-Olivier Gisbert, publié demain dans Le Point, François Hollande déclare à propos du candidat de la France insoumise « Il y a un péril face aux simplifications, aux falsifications qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun » plutôt que le contenu de son texte.
Il parle directement de Mélenchon.
Exactement, il est interrogé sur Mélenchon et voilà ce qu'il répond. D'autres entretiens à la presse sont prévus avant le premier tour. Le site de divertissement Combini diffusera la semaine prochaine une interview du chef de l'État soucieux de s'adresser aux jeunes, soucieux plus que jamais, semble-t-il, de mettre en garde contre les dangers populistes de cette campagne gagnée par l'émotion, dit-il, et non par la raison. Dans les dangers populistes, il ne rangeait jusque-là que Marine Le Pen. Eh bien, cela ne semble plus être le cas.
Combini, c'est jeux vidéo, c'est ça ?
Jeux vidéo, ah ouais, exactement. Ça, ouais. Et donc, c'est pour s'adresser donc plutôt
aux jeunes.
Aux jeunes. Mmh. Même Benoît Hamon, candidat socialiste à la peine, sous le crayon de Rhys à la une de Charlie Hebdo. Il s'apprête d'ailleurs à tomber dans une bouche d'égout, à se prendre un pot de fleurs sur la tête et à se prendre aussi un râteau. Benoît Hamon, donc, qui avait passé un pacte de non-agression avec son concurrent, finit à son tour par dégainer un petit peu contre Jean-Luc Mélenchon. Dans une interview aux Échos, il dit assumer un désaccord profond avec lui sur l'Europe. Alors, contrairement à vous, Pierre-Laurent, il dit « Je ne crois pas à son plan A de renégociation des traités européens trop exigeant. Il n'y a donc chez lui que le plan B, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. » Mais bon sang ne saurait mentir, c'est toujours Emmanuel Macron qu'il juge le plus dangereux. Je crains que Marine Le Pen ne gagne la prochaine fois si on continue à mettre en œuvre des politiques libérales, ces politiques qui font monter l'extrême droite. Or, Macron, en matière sociale, c'est le néant absolu, dit-il. Et puis autre loup pour Hamon, Pierre Gattaz, le numéro 1 du MEDEF, qui a mis hier sur le même plan les programmes économiques de Le Pen, de Mélenchon et de Hamon. Alors Dominique Seux vous en a parlé il y a quelques instants, c'était avant 8h, mais il faut lire sur le site des Échos la lettre de réponse du candidat socialiste. « Vous m'insultez, dit-il à Gattaz, vous achevez de vous ridiculiser. Tout le monde n'a pas eu la chance d'hériter d'une entreprise », lui rappelle-t-il cruellement. « Votre monde s'éteint, il est triste et sinistre. Je souhaite que les Français tournent bientôt la page. » Un Hamon saignant donc contre Gattaz, contre Macron, bien plus que contre Mélenchon, décidément. Emmanuel Macron, qui aura la voix du très chiracien Jean-Louis Debré, si l'on en croit Ludovic Vigogne dans l'Opinion. Comme la plupart. Ah, il en manque quelques-uns encore.
Ouais.
La fille, notamment. On n'a pas de nouvelles encore. Emmanuel Macron qui se produira ce soir à Pau, dans la ville de François Bayrou. Libération nous retrace ce matin les 2 mois d'union libre entre les deux hommes. Si l'amour dure 3 ans pour notre ami Frédéric Becbédé, Nathalie Rollin nous dévoile que la romance politique entre les deux a déjà du plomb dans l'aile au bout de 2 mois. Donc, certes, ils se détestaient, ils s'aiment maintenant. Néanmoins, le candidat d'En Marche entend, paraît-il, désormais éviter autant que possible de partager la photo avec François Bayrou. L'effet repoussoir de Bayrou sur l'électorat de droite pourrait le priver de l'apport de voix sur lequel il compte pour coiffer Le Pen au poteau le 23 avril. Le maire de Pau serait donc déjà relégué à l'arrière-plan de la campagne.
François Fillon, de nouveau épinglé par Le Canard enchaîné ce matin.
Qui a retrouvé les premiers contrats de travail de Pénélope Fillon. Le Canard raconte ce matin qu'avant même leur mariage, François Fillon s'est débrouillé pour que son épouse décroche un job de collaboratrice au sein d'un ministère parisien. Et on est à ce moment-là, en avril 1980, on se rapproche de Vercingétorix, décidément, Le Canard qui se fend surtout d'une réponse au candidat qui, sur France Inter, avait affirmé détenir toutes les preuves, les noms des personnes ayant communiqué les documents sur les emplois de son épouse. Toujours pas de plainte contre nous, dit Le Canard. Et puis surtout, comment la rédiger quand le candidat a lui-même reconnu la main sur le cœur qu'il a bien rémunéré son épouse sur fonds publics. Et puis pour rire, le dessin de Félix en dernière page de Charlie Hebdo. Pâques chez les Fillon, un petit garçon brandit les œufs trouvés dans le jardin. François Fillon arrive et dit « Bravo, pour maintenant, tu rends les œufs ».
Dans Charlie Hebdo encore, les réponses des candidats sur la loi de 1905.
Alors seul Philippe Poutou n'a pas répondu à Charlie qui demandait à chacun de s'engager à ne pas modifier de quelque manière que ce soit la loi sur la laïcité. Tous signent l'engagement avec des arguments différents. Elle doit être un bouclier des libertés, pas un glaive juridique de ceux qui veulent combattre une communauté, dit par exemple Benoît Hamon. Des arguments dans lesquels Gérard Biard discerne les ambiguïtés des uns et des autres sur le sujet. Entre Fillon, soutenu par Sens Commun, et Marine Le Pen, qui malgré son engagement dirige un parti très lié aux catholiques intégristes et dont la nièce ne rate pas une occasion d'affirmer sa conception religieuse de l'exercice politique. Il faut se méfier, reconnaît Gérard Biard. Reste cet engagement écrit qui pourra toujours leur être rappelé.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.